Frères et sœurs, depuis le 18 janvier et jusqu'au 25 janvier, nous sommes entrés dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Vous voyez, mais qui est-ce que cela concerne, l'unité des chrétiens?
Alors ça nous vient un peu à l'esprit, ce doit être l'unité des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des différentes confessions chrétiennes. Mais l'unité des chrétiens, ça va aussi toucher l'unité au sein de notre propre communauté, entre les différentes sensibilités, que ce soit charismatiques, tradis ou autres, entre les différents groupes paroissiaux. Vous savez qu'à Notre-Dame du Travail, nous avons à la fois une communauté française et une communauté portugaise. Ce sont ceux qui sont plus particulièrement touchés par l'enseignement de la parole de Dieu, ou ceux qui sont plus particulièrement touchés par l'appel à servir les plus pauvres. L'unité des chrétiens, c'est aussi l'unité au sein de nos propres familles. Donc il y a tout un travail, il y a un beau travail, c'est quelque chose de large. Nous nous appelons frères, parfois même entre confessions chrétiennes, on va préciser frères séparés, mais on s'appelle frères quand même. Et de fait, frères, c'est à la fois un beau terme, mais c'est un terme difficile. Parce que je ne sais pas si vous avez mémoire dans la Bible, à quel moment on parle des frères, mais au départ, quand on parle des frères, ça se passe plutôt pas très bien. Vous avez peut-être en mémoire l'histoire des deux premiers frères, Caïn et Abel, où Caïn va se jeter sur son frère et le mettre à mort. Un peu plus tard, on va nous parler de Jacob et Ésaü. Ça se passe pas très bien non plus. Il y en a un qui est quand même un vrai roublard et qui va entraîner la haine de l'autre pendant de nombreuses années. Et puis on se dit, mais ça s'arrête pas là, on va la génération suivante. C'est les fils de Jacob, justement, c'est Joseph que ses frères veulent mettre à mort. Finalement, ils le mettent dans une fosse et puis ils se disent, plutôt que de le laisser mourir dans la fosse, vendons-le en esclavage, ce sera mieux. Des frères, c'est pas très simple. C'est pas très simple. Et si bien que nous préférons la distance, voire demeurer dans l'ignorance. On est parfois mal à l'aise avec les autres confessions chrétiennes. On en a peu de connaissances. On sait qu'ils sont baptisés, mais on ne sait pas trop est-ce qu'ils célèbrent vraiment le mystère pascal et comment le font-ils. Pour sortir un peu de cette méconnaissance, c'est pour ça qu'on organise après la messe à 12h30 ce petit pèlerinage écuménique entre les différentes églises chrétiennes du quartier pour avoir la possibilité de se découvrir, de s'entendre, d'entendre comment chacun célèbre le mystère pascal. Essayer de sortir de ce mal à l'aise avec peu de connaissances. Alors, en même temps, on pourrait dire, mais ce qui provoque notre mal à l'aise aussi, c'est que parfois on a un peu peur. Peur de quoi? Eh bien que la rencontre avec les autres entraîne dans notre cœur de la confusion. Finalement, que leur approche différente ne souffle ou ne menace la flamme qui m'habite. D'où cette espèce de distance ou d'indifférence. J'ai peur de tomber dans les ténèbres, alors non, que je ne m'approche pas trop de toi, je préfère ne pas te connaître. C'est vrai, c'est difficile de travailler avec ses frères. Autant on choisit ses amis, autant on choisit son conjoint, mais autant ses frères, ils nous sont donnés. Il va falloir faire avec, c'est compliqué. Et pourtant, vous avez vu dans l'Évangile, Jésus appelle des frères. Pierre et André, Jacques et Jean, deux pères de frères. Et on aurait envie de se dire, mais est-ce que c'est pas augmenter la difficulté? Comment la fratrie va-t-elle supporter ce même appel? Comment est-ce que Pierre va supporter l'appel d'André? Comment est-ce que Jean va supporter l'appel de Jacques? En plus, on nous dit que leur métier, ils sont pêcheurs, les uns et les autres. C'est-à-dire aussi, dans une certaine mesure, concurrents, hein. Ils vendent le poisson qu'ils pêchent dans la mer de Galilée au même village de Capharnaüm. Est-ce qu'il ne va-t-il pas se produire une rivalité entre les fratries? Jésus le sait. Jésus sait cette complication. La vie des douze, d'ailleurs, le prouvera. Ils se disputeront régulièrement pour savoir qui est le plus grand. Jésus, pourtant, ne reviendra pas sur ce choix. Plus encore, il les appellera ses frères. Mais vous vous souvenez à quel moment est-ce que Jésus appelle ses apôtres, ses frères?
Ce n'est pas dès le début, c'est après la résurrection. Vous savez, cette rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine, où il lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, que je monte vers mon Dieu et votre Dieu. » Et voilà que Jésus appelle ses disciples ses frères et qu'il leur donne d'appeler le Père des cieux leur Père, eux aussi. Jésus crée une fraternité nouvelle. Jésus crée une fraternité qui réussit. Et ça vaut le coup qu'on s'arrête un instant là-dessus. Parce que nous avons l'habitude, nous avons l'expérience des fratries blessées. Nous avons l'expérience des fratries blessées. Au point de nous dire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir continuer dans ce sens. Et d'une certaine manière, si ce n'était qu'à l'échelle humaine, on aurait peut-être raison. C'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine dont nous sommes les témoins. Dieu est à l'origine de ce peuple de frères qu'il veut créer. Alors si Dieu est à l'origine de ce peuple de frères qu'il veut créer, il y a peut-être plus de chance que simplement la force de la fratrie naturelle. Peut-être que cette fraternité-là, elle a un véritable avenir. Alors assurément, ce n'était pas simple. Il a fallu la mort de Jésus sur la croix pour faire céder toutes les résistances. Vous savez, ces peurs, ces rancœurs, ces jalousies, ces histoires bloquées ou découragées, les illusions qu'on peut se faire. Parfois, j'allais dire, pour en prendre conscience, il faut se souvenir parfois de l'appréhension que l'on a quand Noël arrive et on se dit, oh, on va se retrouver en famille, je vais devoir retrouver un tel. Ouh, pas simple, pas simple. Il va falloir que le Christ donne sa vie, que le Christ donne sa vie jusqu'au bout pour toucher ses résistances. Parce qu'en lui, nous devenons fils et filles du Père. En lui, nous recevons le lien qui peut nous unir, le lien extraordinaire, surnaturel qui peut nous unir. Et c'est parce que ce n'est pas évident que Jésus manifeste que cette unité sera aux yeux du monde le signe de la vérité de son annonce. C'est tellement compliqué l'unité entre frères que l'unité de ses disciples sera un signe déterminant pour la foi du monde, le signe que Dieu agit. Vous vous rappelez la prière de Jésus, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17. « Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » La qualité de l'unité des chrétiens sera un témoignage ou bien un contre-témoignage de la vérité de Jésus comme Dieu et Sauveur pour le monde. Alors on peut se dire, d'accord, on entend cela. Mais comment on va faire justement pour avancer dans l'unité sans se perdre? On voit bien que notre monde a à la fois une soif de l'unité, mais que très souvent, il propose la confusion à la place de l'unité. On va dire que c'est tous pareil, c'est tous la même chose. C'est un relativisme qui s'étend à gauche, à droite, en haut, en bas. L'unité n'est pas l'unité de la confusion. Parce que je vois flou, j'ai l'impression que les lignes, qu'il n'y a plus de différence. Il ne s'agit pas de voir flou. Il s'agit de rentrer justement dans cette unité vraie et entière. Alors la première chose à remarquer, c'est que le contexte où agit Jésus n'était pas un contexte favorable. Je me rends compte que je parle depuis un moment déjà, j'espère que vous êtes toujours vivants. Il y en a qui bougent encore, ça va, très bien. Il y en a qui rebougent maintenant, c'est mieux. Le contexte n'est pas favorable. Vous avez entendu dans l'Évangile, on dit où est-ce qu'il va parler dans ce qu'on appelle la Galilée des nations, qui a été surnommé le pays de l'ombre de la mort. Vous voyez, super, super contexte. La Galilée des nations, ça veut dire on est tellement aux confins du monde juif que la foi dans l'Alliance et la mémoire de l'Alliance, c'est quasiment des païens ceux qui sont là. Quand on les regarde depuis Jérusalem, on a des doutes. Contexte marqué par le paganisme. Et puis, on nous dit aussi que ce monde, on pourrait dire païen, ben il n'attendait rien. Il n'attendait rien des Juifs. Eh bien, nous aussi, on peut se dire, notre monde s'est éloigné de la foi.
Parfois, on possède mal l'alliance qui nous a été donnée nous-mêmes, et dans le monde autour de nous, on a l'impression qu'il ne nous demande rien, parfois on le gêne même. Mais si on se retrouve à organiser des marches pour la vie, pour redire au monde l'importance et la beauté de la dignité humaine depuis sa conception naturelle, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, c'est parce qu'il y a vraiment une ténèbre qui est montée sur le monde qui semble ne plus proposer comme solution aux difficultés que la mort. Le petit à naître vous gêne, supprimons-le. Le handicapé nous gêne, supprimons-le. Le vieillard qui devient dépendant nous gêne, supprimons-le. Notre monde semble ne plus avoir de ressources que la mort pour résoudre les questions. Il y a vraiment une ténèbre qui est montée sur ce monde. Eh bien, si l'on regarde ce que fait Jésus, alors j'allais dire, on va reprendre courage. Ce n'était pas mieux il y a 10 siècles. Ce n'était pas mieux il y a 20 siècles. Quand Jésus intervient, c'est bien le pays de l'ombre de la mort. Il y a des similitudes fortes entre le moment où Jésus annonce la bonne nouvelle et le moment qui nous est donné, nous, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc première chose, n'ayons pas peur du contexte. Jésus va débuter sa prédication dans ce contexte hostile. Et qu'est-ce que l'on voit? Ça va commencer tout simplement sur les bords du lac de Galilée. Vous voyez, c'est là que sa prédication commence, et puis, comme une flamme qui se transmet de mèche en mèche, il va enflammer des disciples. Ou pour reprendre l'image de l'Évangile, il va pêcher des hommes. Ça y est, il en a attrapé 4 là. Pierre et André, Jacques et Jean. Et puis il leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous aussi, vous en pêcherez d'autres. Si je reviens à mon image de la flamme, le feu de Jésus qu'ils ont reçu, ils seront capables de la transmettre à d'autres. Et c'est ainsi que l'Évangile s'est propagé. Mais au départ, ça commence comment? Jésus, au bord du lac de Galilée, qui en appelle 4. Vous êtes sûr qu'on peut aller loin avec un départ comme ça? Et pourtant, la bonne nouvelle a traversé toute la terre. Donc n'ayons pas peur, j'allais dire, on n'est pas face à quelque chose qui ne s'est jamais produit, on a déjà l'exemple que ça s'est produit. Ben, du coup, il y a plus de chances que ça se reproduise, je ne suis pas face à quelque chose, on l'a jamais vu, on l'a jamais entendu, on l'a vu sur notre terre. Donc là, il y a cet élément d'espérance. Jésus, tu as déjà ouvert ce chemin. Ce chemin, il existe déjà, il est déjà tracé. Le sillon dans la terre, le sillon est tracé. Puis la deuxième chose, c'est apprendre à reconnaître la présence de Jésus. Apprendre à reconnaître la présence de Jésus. Ça veut dire, non pas tant regarder les modes d'expression que les fruits. Je voudrais revenir à mon image de la flamme. Vous savez que des flammes peuvent avoir des formes différentes, et pourtant chacune va transmettre de la lumière. Elles peuvent avoir des formes différentes, et chacune va transmettre de la lumière. Le Christ est la lumière du monde. Il a voulu que nous le soyons à notre tour, il vient nous embraser. Eh bien, il y a un enjeu d'être capable de reconnaître son action, sa lumière chez les autres, et par exemple chez les autres confessions chrétiennes. Je ne dis pas qu'il s'agit de dire « Ah, on est tous pareils ». Non, mais soyons capables de regarder quelle est dans leur vie, dans leur prière, les signes de l'action et de la présence de Dieu. On peut être frappé, ça a pu arriver à certains, d'être frappé dans des communautés protestantes par le sens de la louange. Il y a certains catholiques, d'ailleurs, que je connais, qui sont revenus à la foi par ce détour-là. Il y a une force de la louange qu'ils ont vue, qu'ils ont reconnue, et ils l'ont reconnue comme une œuvre du Seigneur. On peut, autour, et ce sera le parcours d'autres personnes, découvrir au sein de la tradition orthodoxe une richesse de la liturgie, une beauté de la liturgie qui amène au sens du mystère. C'est un signe encore de Dieu. Il y en a d'autres qui, auprès de communautés traditionnelles, ont redécouvert le sens du silence et de l'adoration. Il y a des flammes de la présence de Dieu que nous pouvons voir en action dans d'autres communautés, et que nous voyons tout particulièrement lorsque, persécutés pour leur foi au Christ, ils donnent leur vie en témoignage au Christ. Il n'y a pas de martyr du Christ sans l'action de l'Esprit-Saint. Nous serions bien malheureux de ne pas repérer lorsque l'Esprit Saint est à l'œuvre pour la constitution de l'Église. Et donc, quand nous nous trouvons face à d'autres chrétiens, et lorsque nous nous trouvons face parfois à des pratiques qui nous étonnent, parce qu'elles ne sont pas les nôtres habituellement, au lieu de d'abord réagir en disant « Ah ben, ils font pas comme nous, je veux pas savoir », osons poser la question « Quel est le bien que vous cherchez en faisant ça ? Qu'est-ce que vous voulez défendre ? Quelle est la bonté que vous exprimez en faisant ça ?» Là, il y aura peut-être des choses intéressantes qu'on va entendre. Parce que leur approche, quand bien même peut-être c'est par des façons qui ne sont pas les nôtres, c'est intéressant de savoir quel était le bien qu'ils voulaient promouvoir, le bien qu'ils voulaient promulguer, le bien qu'ils voulaient défendre et développer. Car si l'on a reconnu cela, alors on reconnaîtra l'action de Dieu à l'œuvre. Et à partir de là, parce qu'on reconnaît d'abord qu'on a un socle commun, on va pouvoir affronter les différences, ce qui nous sépare véritablement. Et c'est là que la prière se développe. Seigneur, nous ne savons pas dépasser nos différences, il faut que ce soit toi qui agisses. Nous faisons monter notre prière, parce qu'il faut que tu accomplisses ce miracle. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous le faisons parce que nous reconnaissons déjà des frères dans le baptême. Seigneur Jésus, nous croyons que tu veux fonder un peuple de frères et que tu nous en donnes la grâce. Toi, le premier pêcheur d'hommes, tu nous donnes de le devenir. Apprends-nous à repérer chez nos frères les fruits de ton action. Que cette recherche soit notre premier effort. Ensuite seulement nous serons à même de reconnaître ce qui nous sépare pour y travailler et te demander la grâce, dans la vérité, de le dépasser. Donne-nous de repérer les œuvres de ton Esprit Saint qui jamais ne nous sépare de ton Église. Amen.